Excusez-moi, vous avez attendu du temps. Je crois qu'il y a du retard. J'ai vu 10 minutes de silence, c'est bon. C'est encore plus profitable que le cours. La fois dernière, on a donc vu comment la grâce était, ne pouvait être atteinte que d'une façon par la foi et explicitée que d'une manière analogique. C'est participation à la nature divine. Je n'ai pas de concept de Dieu. Je n'ai pas de concept de la nature divine. Je n'ai pas de concept de la grâce. Je crois. C'est dans la foi que vous recevez la grâce. Donc, pas de notion générique de la grâce. Je ne peux pas la définir, la grâce. Vous balbutiez en disant participation. Hein. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée hein. Quand vous dites la grâce, participation. Réfléchissez. Hein. Participation à la nature divine. C'est-à-dire, elle m'échappe complètement. Puis c'est tout. Mettre la grâce dans une boîte, c'est-à-dire dans une définition, genre et différence spécifique. Non. Est-ce que je peux saisir la ratio de la grâce ? Comme j'ai la ratio de l'être. Jugement d'existence, de foi. C'est Jésus qui m'a dit que je pouvais naître de nouveau. Jésus à Nicodème. Oh, ça, il faut relire ça. Et le lire, parce que c'est vraiment là où nous voyons. Je crois que Jésus reviendrait et il serait aussi sévère vis-à-vis de beaucoup qu'avec Nicodème. Oh, Jésus, c'est la troisième observant, troisième jugement de Jésus sur son peuple. N'oubliez jamais ça. Le début de l'évangile de Jean, c'est très pensé l'évangile de Jean. C'est pour ça que les orthodoxes l'appellent le théologien. C'est très pensé. C'est révélé, mais c'est très pensé. C'est pas descriptif. Première chose, Cana. Deuxième, chasser les vendeurs du temple. Troisième, Nicodème. C'est tout ce que Jésus nous dit sur son peuple. Quatrième, c'est la Samaritaine. C'est déjà quelqu'un qui est un petit peu à côté. Samaritaine, un petit peu à côté. Elle n'est pas purement, non, vraiment. Chez les pharisiens la rejettent. C'est l'analogie de la protestante. Oui, tout à fait différent, hein, tout à fait différent. Mais il y a quelque chose d'analogue. Et c'est très, très pensé de voir que Jésus porte trois jugements sur son peuple. Cana, il manque de vin. Le jour des noces, on fait tout pour qu'il ne manque pas de vin dans ce pays de vin. C'est le petit signe que la noce n'était plus regardée comme elle aurait dû l'être. Et Jésus vient réhabiliter le mariage. C'est la première chose qu'il fait, en montrant la grandeur, puisque c'est Dieu qui l'a voulu. C'est une œuvre divine, hein. Et c'est Dieu qui vient donner du vin parce qu'il juge que c'est une fête. Il y a ça dans Cana. Hein. On ne voit pas beaucoup ça, on oublie. On oublie trop qu'il y a un ordre dans l'évangile de Jean. Un ordre qui a été très, très... Je crois que Marie a compris. Elle était à Cana. Vendeur du temple. Alors là, facile à comprendre que les sacrifices occupaient tellement que, le point de vue du sacrifice des victimes, devient capital. Alors, une rectification de ne pas matérialiser la vertu de religion. Les intentions. C'est très extraordinaire, hein, la colère de Jésus. Et puis, troisième Nicodème, je lis. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens parmi les pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. C'est pas n'importe qui. Celui-ci vint vers Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu chez nous. Hein? Cana, ça fait du bruit. Et ça a bien montré que Jésus avait un pouvoir qui ne venait pas des hommes. Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu. C'est de la part de Dieu que tu es venu en docteur. Donc, il sait ce que c'est, il est docteur. Personne, en effet, ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus répondit et lui dit : en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus parle tout de suite d'une naissance. La grâce, c'est une naissance. C'est important. Une naissance, elle se termine à une réalité substantielle. En vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir. Because
Je me dis, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est très bien, bonne réflexion, très humaine. Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est répété, hein? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Il y a une insistance pour montrer que c'est une naissance. Donc quand on dit que la grâce est un accident, attention, attention de ne pas avoir. Les hommes ont diminué la vérité de Dieu. Le vent souffle où il veut, et sa voix, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur en Israël. Et tu ne connais pas cela. En vérité, je te le dis, si c'est de ce que nous savons que nous parlons, et de ce que nous avons vu, que nous témoignons, et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Si, lorsque je vous dis les choses de la terre, vous ne croyez pas, comment croyez-vous si je vous dis les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et de même, vous voyez que Jésus présente le royaume de Dieu qui nous est donné par la grâce comme une naissance. Ça me frappe toujours beaucoup ça. Parce que nous sommes habitués en théologie de dire que la grâce est un accident qui s'ajoute à la nature. Oui. Attention. Nous devons tout de suite corriger. La grâce est un principe de vie. C'est pour ça que c'est une naissance. C'est un principe de vie. Et la grâce nous donne une vie nouvelle. Donc, quelque chose de substantiel. Elle n'est pas substantielle, puisqu'elle s'ajoute, c'est vrai. Et donc elle s'ajoute comme un accident. Mais elle a une fin propre. C'est toujours pas la finalité. Si on regardait plus la finalité, on insisterait moins sur l'accident. Et on verrait que, en effet, la grâce nous oriente vers la vision béatifique. Alors, c'est très juste, la grâce nous oriente vers la vision béatifique. C'est le propre de la grâce, c'est de naître d'en haut, naissance. Et parce que justement, c'est une naissance se comprend par sa finalité, et que la finalité, c'est Dieu, est au-delà de toute définition. C'est une réalité analogique, divine, que je ne peux saisir que en voyant son ordre vers la vision béatifique, vers le royaume de Dieu. Je crois que ça, c'est très important de se rappeler ça. Et c'est Saint Jean qui le dit, n'est-ce pas ? Donc, toutes les discussions théologiques doivent revenir à la parole de Dieu et voir si la parole de Dieu est bien respectée. Comparé à ce que saint Thomas nous dit sur la grâce, et puis ce texte. Alors, saint Thomas, en théologien, précise, mais il sait très bien que la grâce ne se définit pas, que la grâce nous met en Dieu, participation à la nature divine. Elle nous projette en Dieu, elle nous projette vers la vision béatifique. Elle est toute tendue vers la vision béatifique, le royaume divin. Je dis ça, c'est pour vous dire que tout de suite, qu'est-ce que nous connaissons dans la grâce ? La grâce est donnée au point de départ, comme une grâce de justice originelle. Cette grâce de justice originelle a été perdue. Et il nous est promis un sauveur. Et ce sauveur est venu, c'est le Christ. Et il nous parle de la grâce comme d'une naissance, transformation nouvelle. Donc la grâce est une notion analogique, une réalité analogique, puisque participation à la nature divine. Je n'ai pas d'idée, de concept de la grâce. Je n'ai qu'un jugement de foi qui me dit qu'elle existe et qu'elle m'est donnée. Et je vois diverses modalités de la grâce. La grâce a été donnée au point de départ à Adam et Ève. Première modalité de la grâce, et que le théologien précise en disant c'est une grâce de justice originelle. Parce que la grâce a été donnée à Adam et à Ève en même temps que leur âme. Dieu a créé l'âme d'Adam. Il a créé l'âme d'Adam avec cette qualité spéciale, cette lumière particulière qui est de la grâce. On ne sait pas grand-chose de la justice originelle, mais on sait quand même certains points. Grâce juste originelle nous orienter vers le ciel, la vision béatifique. Que la justice originelle était donnée à notre nature, à notre âme, comme un principe surélevé infiniment. La grâce a quelque chose d'infini, puisqu'elle est divine. Surélevé infiniment l'âme d'Adam, l'âme d'Ève. Donc, elle est donnée dans un acte créateur, directement par Dieu, comme l'âme. Et la justice originelle faisait qu'Adam et Ève fondaient un foyer où Adam aurait été prêtre de sa famille. Il avait autorité, une autorité physique, humaine, une autorité divine. Il y avait une harmonie très particulière entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Une harmonie. On ne sait pas grand-chose. Mais on sait, sur le point de vue, que la grâce était donnée dans une famille et que tu as voulu que Adam et Ève soient père et mère de ce qui viendrait après et que Adam avait autorité humaine et autorité divine. Les choses étaient bien gardées. Donc, cette harmonie entre la nature et la grâce, se réaliser dans une transformation de la nature humaine, de l'âme, et premièrement de l'âme, par la grâce sanctifiante, qui les sanctifiait en faisant toute leur vie était ordonnée à la vision béatifique. C'est net. Alors, le théologien, comme saint Thomas, à la suite des pères de l'Église, ont montré la différence de la grâce d'Adam et de la grâce des anges. Les anges, je sais qu'ils existent par la révélation. Et ils ont été créés en état de grâce, justice originelle, comme Adam, comme Ève. Avec la seule différence, c'est que ils optaient pour le royaume de Dieu tout de suite. Les anges n'ont pas eu de vie angélique antérieure à leur vie surnaturelle. Ils ont été immédiatement des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Dieu a considéré que ce n'était pas suffisant de créer des anges, qu'il fallait créer des hommes une race humaine des hommes, qu'il les aimerait d'une façon toute différente et en même temps essentiellement la même. La grâce des anges est une participation à la nature divine. La grâce d'Adam, participation à la nature divine. La grâce d'Ève, participation à la nature divine. Il y a eu le péché d'orgueil. D'être soumise à Dieu, d'être soumise. Elle n'a pas accepté le commandement de Dieu, la soumission à Dieu. Et elle s'est séparée. Adam et Ève étaient principe au sens fort du mot premier. Leur faute a eu une conséquence sur tous leurs descendants. C'est unique ça. La nature et la personne sont très liées. L'acte de désobéissance d'Ève, l'acte d'orgueil d'Ève, est un acte personnel et un acte en même temps qui touche la nature. Parce que Dieu avait voulu qu'il soit dans la nature humaine principe, donc responsable de toute la nature humaine. Et c'est sûrement ce péché originel, le premier péché, qui est actuellement actuellement le plus difficile à accepter, que la descendance d'Adam, nous sommes la descendance d'Adam, que la descendance d'Adam apparaît au monde en étant des êtres humains, mais qui sont privés de la grâce de Dieu. Des êtres humains qui sont loin de Dieu. Mais la nature est restée bonne. La preuve, c'est qu'il y a Abel. Abel est un saint. Et on verra Abel quand nous irons dans le ciel. Caïn, il est moins saint. Il a plus subi l'orgueil de sa mère. Mais là, c'était une faute de jalousie. C'est très curieux que l'orgueil s'est tout de suite traduit communautairement par la jalousie. Parce que l'orgueil est personnel. Mais comme l'orgueil a eu une conséquence sur la nature, immédiatement, il y a eu le point de vue de la jalousie. Je crois qu'il faut aussi être très attentif à ça. Que l'orgueil engendre la jalousie. Et Caïn a été jaloux d'Abel. Et on ne parle pas de la grâce d'Abel. Il est après la faute. Donc, ça prouve que la nature restait bonne tout en étant déviée. Il y a eu cette chose très curieuse d'Abel qui avait une rectitude dans son adoration qui faisait que Dieu s'intéressait à lui malgré la faute d'Ève. La faute d'Adam. Et Dieu, immédiatement après la faute, a promis un sauveur pour que Adam ne tombe pas dans le désespoir. Il aurait un sauveur. Et c'est en toute grâce à cette promesse que Abel a pu adorer avec un cœur pur, dans l'espérance du sauveur. Ça, c'est très beau et on ne le souligne pas assez. Parce que c'est uniquement une promesse d'un sauveur. Donc la promesse du sauveur est reçue dans l'espérance. Et Abel a été créé dans le péché, comme nous tous. Le psaume 50, je vais l'oublier. Mais il avait une rectitude de son intelligence, acceptant cette situation du pauvre, et du pauvre qui voulait être libre. D'être celui se remettait entièrement dans une remise de miséricorde, miséricorde divine. Il s'abandonnait. Abel, c'est très beau, et c'est pour montrer que la nature humaine restait bonne même après le péché. Parce que il est né dans la faute, faute de nature, et cependant, il a été rectifié personnellement par une grâce de Dieu. Et il a été le premier martyr. Qui respectait l'adoration, qui respectait la création de l'âme, la dépendance directe qu'il avait avec Dieu. Il y a la promesse que Dieu viendrait sauver son peuple. Et ceci maintenait une espérance. Et c'est sur cette espérance que Abel s'appuie. Abel, c'est le petit saint de l'espérance, dans toute sa pureté. Et c'est grâce à cette promesse de Dieu que Abel regarde Dieu, contemple Dieu dans son adoration. il y a toute cette longue préparation. Mille ans, 2000 ans, avec les prophètes qui sont là, avec Abraham qui reprend tout en l'offrant à Dieu. Donc, c'est que il y a un monde loin de Dieu, pécheur, retourné sur lui-même, comme Cain. Et puis, un monde juste, d'amis de Dieu. Et la promesse, elle est pour les amis de Dieu. Ce cheminement de l'homme en vue du salut se fait dans l'espérance. Et les prophètes sont là, et la loi de tout ce qui nous est donné ensuite, qui est comme une préparation au Christ. Et de cette race, juive, la race bénie par Dieu, n'est pas venue tout de suite. Il y a eu un temps très curieux, pas très précis, mais tous ceux qui ont été saisis par cette présence et qui ont vécu la promesse. Et les prophètes sont là pour il y a un salut qui demeure dans l'espérance et qui est par le fait même très imparfait. Il y a la grâce à Dieu qui est donnée, sûrement. Qui est donné à Abraham, qui est donné à Isaac. Il y a quelque chose qui demeure lié à Dieu, et c'est bien cette grâce. Dans l'attente. Ça se termine par Marie. Marie, nous le savons, nous, elle est immaculée. La tâche originelle ne l'a pas atteinte. Elle est immaculée en vertu de la grâce qui viendra du Christ. Elle est immaculée. Et Dieu reprend tout en elle. Marie, le Père lui demande si elle accepte d'être la mère de Dieu. Mais Marie demeure dans l'attente. C'est l'espérance en Marie qui est si grande et si belle. Et cette espérance va permettre à Dieu de tout reprendre en elle. De tout reprendre. Ses parents, Anne et Joachim, vivaient de l'espérance. Marie lié à Dieu par la grâce, d'une façon très particulière, puisqu'elle est immaculée. Et toute la vie de Marie est sainte. Ce que c'est que la sainteté en Marie. Marie devient la mère de Jésus, du Sauveur. Et Jésus est reçu comme le Sauveur. Uniquement du côté de la grâce. Je vois que la grâce a pris des formes très différentes. En Adam et Ève, après le péché, la grâce existe pour Abel. La grâce est donné d'une façon particulière et très spéciale à un peuple, Israël, le peuple juif. Et ce peuple a la grâce de Dieu pour attendre le Sauveur. Et cette grâce prend toute sa signification en Marie. Et Jésus, que Marie reçoit, il est source de toute grâce. Nous voyons donc que la grâce prend des modalités très différentes, en étant toujours la grâce. Et donc, la grâce est toujours participation à la nature divine. Mais elle prend des modalités très différentes. Cette grâce a des modalités premières avant le péché, puis après en attente du Sauveur dans un peuple, dans des individus. Et puis, dans le Christ et dans l'homme. Donc, cette grâce prend des modalités très différentes. Mais c'est toujours la grâce. Alors, nous devons regarder ces diverses modalités pour mieux saisir ce qu'est la grâce. Dire que la grâce est toujours la même, non, ce n'est pas juste. La grâce n'est pas toujours la même, elle est toujours la même au point de vue finalité, au point de vue entrer dans le royaume de Dieu, mais au point de vue de ses effets, au point de vue de sa nature reçue en nous, n'a pas des effets qui sont toujours les mêmes. Saisir ces diverses modalités, et c'est ce que nous essaierons de voir ça la fois prochaine, pour mieux comprendre cette modalité tout à fait particulière d'une grâce qui vient du Christ. Marie a reçu la plénitude de grâce, et cette plénitude de grâce lui vient de son Fils. Donc, la même grâce, Marie et nous, mais en elle, une plénitude, sans aucune faute. En nous, cette grâce nous rachète et elle s'accompagne d'une nature blessée.